En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Un an après l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, les questions économiques liées à cette énergie font toujours débat un peu partout en Europe et notamment en France dans le contexte de la campagne présidentielle de 2012. Dans un colloque organisé en mars de cette année, à l'Académie des sciences morales et politiques, et dont Canal Académie vous retransmet les meilleurs moments, retrouvez dans ce premier volet Jacques Le Sourne, Jacques Percebois et Jean-Paul Bout. Jacques Le Sourne est président du Centre Énergie de l'IFRI, Institut français de relations internationales. Il est économiste. Jacques Percebois est professeur à l'Université Montpellier 1, président de la commission Énergie 2050, chargée d'élaborer l'avenir énergétique français. Et puis enfin, Jean-Paul Bout est directeur de la stratégie du groupe EDF. Tous les trois abordent tour à tour l'économie du nucléaire. On retrouve sans plus tarder Jacques Le Sourne. Il introduit les interventions des deux autres orateurs, Jacques Percebois et Jean-Paul Bout.
Eh bien, pour aborder un débat sur l'énergie nucléaire dans la politique énergétique française, il me semble qu'il faut poser un préalable et se placer dans deux contextes. Alors le préalable, évidemment, ce sont les problèmes de sûreté et par conséquent du respect par les opérateurs et plus généralement, je pense, par la collectivité des recommandations ou injonctions de l'Agence de sécurité nucléaire. Et naturellement, la discussion que nous venons d'avoir facilite évidemment la continuation de notre travail ce matin. Il me semble aussi qu'il faut se placer dans deux contextes. Le premier, c'est l'estimation des coûts et des avantages des différentes politiques. Et d'autre part, se rappeler que la France est dans l'économie mondiale et plus précisément au sein de l'Union européenne, qui a elle-même défini sa propre politique énergétique. Alors sur le premier point, celui des avantages et coûts des différentes stratégies, je voudrais d'abord rappeler que dans les périodes critiques, l'énergie prête un peu à beaucoup de solutions extrêmes. J'ai connu la période où, après la guerre, quelqu'un, je ne citerai pas, avait proposé que tous les prix soient calculés en grammes de charbon utilisés pour produire le bien en question, tant naturellement le charbon était une denrée fondamentale. Quelques années plus tard, le fondateur de L'Oréal avait proposé de remplacer une année tous les impôts par un impôt sur l'énergie, facile à calculer d'ailleurs, et qui pouvait donc aisément remplacer des tas d'impôts déplaisants, probablement d'ailleurs au premier titre l'impôt sur le revenu. Et je pense qu'un des grands moments d'après-guerre a été lorsque les ingénieurs économistes français, dont les plus éminents ont fait partie ou font partie de cette académie, se sont posés le problème du coût et des avantages des différentes solutions. Alors quel est le message de cette période que l'on a un peu tendance à oublier ? Je crois qu'il y en a 6 ou 7 que je vais très brièvement citer. Le premier, c'est que le passé ne compte pas. Ce n'est pas parce qu'on a éventuellement dépensé beaucoup d'argent qu'il faut continuer à dépenser beaucoup d'argent. Comme le disaient d'ailleurs les soldats japonais, les militaires japonais, qui disaient qu'il fallait continuer la guerre contre la Chine en mémoire de ceux qui étaient déjà morts parmi les combattants japonais. Cette attitude n'est pas du tout, je pense, réaliste. La deuxième chose, c'est qu'il faut comparer des variantes plausibles. C'est-à-dire que lorsqu'on discute du nucléaire, du gaz, des renouvelables, il faut naturellement tenir compte des taux d'utilisation, de l'intermittence, des aléas, et ne pas évidemment comparer des choses qui ne sont pas comparables. J'ai le souvenir d'ailleurs, et ceci donnera l'impression d'être très très ancien, que quand on voulait étudier la rentabilité de la traction électrique de la SNCF, certains voulaient la comparer avec la traction au charbon, que personne ne considérait, puisque la seule autre branche de l'alternative, c'était une traction diesel. Donc comparer des variantes plausibles. Troisièmement, ne pas gommer les évolutions possibles des prix et des coûts. Et naturellement, il peut y avoir des baisses de coûts d'apprentissage, il peut y avoir des hausses de prix pour d'autres raisons. Autrefois, dans l'énergie, il pouvait y avoir la hausse des salaires réels qui introduisait un impact fondamental sur la rentabilité des mines de charbon. Ce point est tout à fait important. Un quatrième point, c'est veiller à intégrer éventuellement des avantages extérieurs que le système de prix ne prend pas en compte. Soit, par exemple, du point de vue du commerce extérieur, quand on est en fort déficit du commerce extérieur et qu'on veut le réduire, soit lorsqu'il y a des impacts locaux sur le plan de l'emploi. Je dis locaux parce que tous les calculs qui expliquent que toutes sortes d'énergies vont créer des millions ou des centaines de milliers d'emplois, tout ça, c'est du vent, puisque ça ne traduit pas la réaffectation d'un système complexe quand l'offre et la demande se modifient. Il peut y avoir les conséquences sur la santé, et naturellement, tout ceci est important à l'intégrer. Un autre élément, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on raisonne souvent sur un point final, quelconque d'ailleurs, et il est tellement loin de la situation actuelle que les choses les plus invraisemblables paraissent naturellement très faciles à atteindre. Alors que presque toujours, les problèmes sont des problèmes de trajectoire. On a vu les durées qui sont en cause lorsqu'on parle de centrales nucléaires, depuis la conception jusqu'à la fin du démantèlement. Et ceci est tout à fait fondamental. Tenir compte du temps. Également, veiller à ce qu'il y ait une certaine cohérence dans les hypothèses de prix et de coûts. On voit bien actuellement dans les politiques européennes un tas de phénomènes à faire se dresser les cheveux sur la tête. L'Espagne qui, par exemple, s'est mise dans une situation absolument insortable en voulant financer le coût de l'électricité pour les ménages très au-dessous du prix du coût de production et qui ne sait plus, avec son endettement, comment sortir de cette position insupportable. Donc, par conséquent, la cohérence future des politiques de prix et des politiques de coût est un élément essentiel. Enfin, je terminerai sur ce point, sur la question des scénarios, c'est-à-dire bien qu'ayant été, comme certains d'entre vous le savent, tout à fait favorable à des scénarios pour étudier les problèmes d'avenir, il y a des moments où les scénarios, on se dit « trop, c'est trop ». Pourquoi « trop, c'est trop » ? D'abord parce qu'on est incapable d'assimiler une certaine multiplicité trop grande de scénarios. Et puis par ailleurs, quand on présente trop de scénarios, on n'a plus le temps de discuter des hypothèses de ces scénarios et donc de la plausibilité. Donc n'importe qui peut présenter un scénario parfaitement extrême en disant qu'en 2080, c'est un scénario parfaitement possible, on peut tout à fait y aller. Et avec une batterie de scénarios trop large, on ne sait absolument plus où on en est. Donc voilà, me semble-t-il, une première leçon qui est importante, qui est la leçon du calcul économique adopté, intelligemment conçu, et qui est nécessaire, je pense, même si les décisions finales sont prises par des autorités politiques élues, non pas parce qu'elles sont plus rationnelles. Ça, c'est une vision tout à fait de l'esprit. C'est pas qu'elles sont rationnelles, c'est que la démocratie fait qu'on accepte des décisions et qu'on n'a pas besoin de trucider les dirigeants pour changer de dirigeant. Donc c'est socialement acceptable. Ça conduit à des catastrophes, tout autant d'ailleurs que les autres régimes politiques, mais de manière plus agréable. Alors le deuxième élément, c'est que nous faisons partie de l'Europe. Or, bien peu d'entre nous ont une idée de ce qu'est la complexité des politiques énergiques européennes. C'est un système à 6 couches. La première couche, c'est évidemment le traité de Lisbonne. Et le traité de Lisbonne sur l'énergie est évidemment assez particulier puisque c'est des responsabilités partagées. Et qu'en particulier, le choix des investissements électriques dépend des gouvernements, comme on l'a vu d'ailleurs très clairement dans le passé. Et donc la responsabilité de la Commission, c'est d'harmoniser des politiques dont au fond les éléments clés échappent largement à la Commission. Deuxièmement, il y a une zone euro qui est importante parce que c'est elle qui assure évidemment qu'on peut faire des calculs de coûts pas trop compliqués et qu'on peut s'échanger à la frontière des biens énergétiques dans la même monnaie. zone euro d'ailleurs, qui occupe tellement le temps des dirigeants européens qu'il est très très difficile de les faire avancer sur quelque autre sujet que ce soit. Troisièmement, il y a trois piliers qui ont été annoncés, dont aucun ne me paraît absolument de nature à supporter un temple de grande ampleur. Le premier, c'est l'indépendance énergétique, mais on s'aperçoit dans la pratique qu'entre les compagnies, les États et l'Union européenne, l'interprétation est extrêmement variable. Le deuxième, c'est de constituer un marché de l'énergie unique, transparent, mais naturellement, compte tenu des choix d'investissement, des taxes très différentes d'un pays à l'autre, des différences aussi dans les modalités de subvention aux énergies renouvelables, on ne sait plus très bien ce que c'est que ce marché de l'énergie, dans lequel d'ailleurs on ne parle plus du coût, alors que la butte qu'on m'avait appris, ou ce que j'ai appris avec le lait offert aux jeunes économistes, c'est que l'intérêt de la concurrence, c'est qu'il y a une pression sur la réduction des coûts. Or là, c'est un marché dans lequel on ne parle plus des coûts. Et d'ailleurs, comme vous le savez, le ménage allemand de Berlin paye son kilowattheure en euros à peu près le double du ménage français, parce qu'il y a évidemment les coûts de production, les coûts de transmission, les impôts, et ça ne se diminue pas, ça ne se rapproche pas. Et le troisième pilier, c'est évidemment la contribution à la lutte contre le changement climatique, qui, je pense, est tout à fait raisonnable. Il est raisonnable que l'Europe fasse sa part. Il ne me paraît pas absolument raisonnable que l'Europe, dont la part dans la population et même dans la consommation d'énergie mondiale baisse à grande vitesse, fasse comme le Pélican qui se sacrifie pour le reste de l'humanité, si le reste de l'humanité ne fait pas aussi les efforts souhaitables sur cet objectif commun. Alors viennent ensuite les objectifs. Alors les objectifs, il y a 20% de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, théoriquement obtenue par un marché du CO2 qui évalue très bas le prix de la tonne de CO2 économisée. Deuxièmement, un objectif sur les renouvelables, mais cet objectif sur les renouvelables est compatible avec 25 politiques différentes d'assistance aux renouvelables dans les pays de l'Union, au point qu'on a vu l'année dernière presque tous les gouvernements donner un coup d'arrêt parce qu'ils trouvaient vraiment que les subventions leur paraissaient abusives compte tenu de l'état de leur budget. Et troisièmement, 20% de baisse, disons, liée à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Efficacité énergétique tout à fait souhaitable, à condition naturellement que la valeur de l'énergie économisée soit supérieure au coût qu'on dépense pour l'économiser. Principe que l'on a aussi tendance à oublier. Donc c'est cet état dans lequel nous sommes liés, puisqu'après il y a les directives que les gouvernements mettent en place, et puis il y a les décisions gouvernementales qui se rajoutent. Alors inutile de dire que ceux d'entre vous qui sont dans des universités peuvent créer tous les doctorats sur la politique européenne de l'énergie. Il y a de quoi faire travailler beaucoup de chercheurs au fur et à mesure que le temps passe, et on est donc bien obligé de tenir compte de cela. Je voulais donc essentiellement insister sur ces deux points et dire que, en conclusion, que nous avons la chance, évidemment en France, de deux textes récents. Le premier, c'est le rapport de la Cour des comptes sur le coût du nucléaire. Je laisse tomber les coûts passés du CEA sur lesquels il y aurait beaucoup à dire. Mais je crois que c'était une instruction gouvernementale, donc on respecte les instructions gouvernementales, quelle que soit leur validité. Et deuxièmement, naturellement, le deuxième rapport, c'est le rapport de la Commission 2050, qui a été présidé par Jacques Percebois et auquel a participé Claude Mandil. Et je vais tout de suite donner la parole à Jacques Percebois.
Bien, Madame le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai en effet le redoutable honneur de présenter les principales conclusions de la Commission Énergie 2050 que j'ai présidée avec Claude Mandil. Cette commission a été mise en place par le ministre M. Besson en octobre 2011. Elle a rendu son rapport le 13 février 2012. Et la question qui était posée, c'est pour préparer la PPI, la programmation pluriannuelle des investissements qui devra être votée par le Parlement en 2013 pour l'horizon 2030, d'examiner différents scénarios, l'horizon 2030 et 2050 pour la France. Alors cette commission était composée d'une cinquantaine de personnes venant d'horizons différents, puisqu'il y avait à la fois des personnalités qualifiées, des représentants de l'industrie, et des représentants des syndicats, des associations de consommateurs. Et cette commission a surtout travaillé, je dirais, à l'horizon 2030 plus qu'à l'horizon 2050, car n'oublions pas que regarder 2050 aujourd'hui, c'est comme regarder aujourd'hui à partir du premier choc pétrolier. Donc dans 40 ans, c'est très difficile d'anticiper ce qui peut se passer. Néanmoins, il fallait regarder un petit peu quelques scénarios possibles. Donc on va surtout mettre l'accent sur 2030 et en particulier sur l'électricité parce que la lettre de mission du ministre insistait sur le fait qu'il fallait regarder en particulier des scénarios concernant la place du nucléaire dans le mix électrique français. Alors je vais juste rappeler quelques éléments importants. La première chose qu'il faut dire, c'est que nous dépendons encore fortement des énergies fossiles, c'est-à-dire essentiellement le pétrole, le gaz et un peu le charbon, puisque ça couvre encore 53% de l'énergie primaire en France et 73% de l'énergie finale. Dans le monde, c'est 80%. C'est important parce que ça veut dire que le prix du pétrole va rester le prix directeur de l'énergie. Et la France dépend quasiment à 100% à la fois des importations de pétrole, des importations de gaz. Quand on regarde par secteur consommateur, mais cette fois en énergie finale, qui n'est qu'une fraction d'énergie primaire, on voit que le secteur domestique et tertiaire est le premier secteur, suivi du secteur des transports, et le secteur industriel aujourd'hui n'intervient qu'en troisième position. Quand on regarde par produit, on s'aperçoit que ce sont les produits pétroliers qui, de loin, toujours en énergie finale, constituent le premier élément, c'est-à-dire 49% à peu près de la consommation finale, suivi de l'électricité, 22-23%, et du gaz naturel, 21%. Donc le prix du pétrole, c'est important, si la demande mondiale est forte, le prix du pétrole doit rester élevé, c'est une hypothèse qu'on a faite. C'est-à-dire qu'on a supposé que le prix du pétrole restait relativement élevé dans le futur. Tout cela parce que la demande d'énergie à l'échelle mondiale va être tirée par les pays émergents, notamment bien sûr les pays d'Asie. Dans le cas européen, c'est un petit peu différent puisque certaines prévisions montrent qu'il est possible d'avoir une faible progression, voire une baisse, et parfois une baisse sensible à l'horizon 2050, notamment la roadmap de la Commission européenne qu'on a étudiée montre que si on veut réduire fortement les émissions de CO2, il faut réduire la demande d'énergie, c'est possible. Et ça peut être très ambitieux, du moins à l'horizon 2050. Alors, il y a plusieurs scénarios, je ne vais pas rentrer dans le détail sur la roadmap de la Commission européenne. Dans le cas de la France, on s'aperçoit que nous sommes dans une tendance de la baisse de l'intensité énergétique, qui d'ailleurs doit se continuer puisque nous avons pris des engagements dans ce domaine. On s'aperçoit que la consommation primaire d'énergie en France s'est stabilisée aux alentours de 266 millions de tonnes d'équivalent pétrole, que dans les années 90, la demande d'énergie en France augmentait chaque année de 4 millions de tonnes d'équivalent pétrole, qu'en 2001-2002, elle a augmenté de 2 millions, et que depuis, elle s'est stabilisée, c'est-à-dire qu'elle n'augmente plus. Elle a même baissé en 2009, mais en raison de la crise économique. L'idée, c'est qu'on doit pouvoir stabiliser cette demande et éventuellement envisager des scénarios qui baisseraient cette demande. Évidemment, il faut tenir compte du fait qu'en France, la population doit augmenter, à la différence, par exemple, d'autres pays européens comme l'Allemagne, où la population est plutôt censée diminuer à l'horizon 2050. Donc l'hypothèse fondamentale, c'était hausse du prix des énergies fossiles, hausse du prix du CO2, sachant que ça a été rappelé, le prix du CO2 aujourd'hui est très bas, mais on a pris des hypothèses où le prix augmenterait. Alors, je précise que la Commission n'avait pas à sa disposition un modèle qu'elle aurait appliqué. La lettre de mission disait, vous regardez les modèles qui existent, vous regardez les scénarios qui ont été constitués, vous en faites une analyse comparative, et puis vous tâchez vous-même de faire un certain nombre de calculs. Alors, on a utilisé pour certains calculs un modèle, notamment le modèle Némésis, qui est un modèle macroéconomique financé par la Commission européenne pour étudier en particulier les conséquences, l'impact sur l'emploi. Donc, les scénarios qui ont été analysés, qui ont été élaborés par des associations, par des opérateurs, c'est le modèle Negawatt, le modèle Negatep, le modèle Global Chance, le modèle du RTE, de l'Union française d'électricité, d'Areva, du CEA, le modèle du ministère, avec Enerdata, à l'horizon souvent 2030. Il y a peu de modèles, il y en a deux ou trois qui vont à 2050, mais c'est plutôt à 2030. Et souvent, c'est sur l'électricité, pas nécessairement sur l'ensemble des énergies. Dans la plupart des scénarios, pas tous, mais dans la plupart des scénarios, la sortie du nucléaire se traduit par un besoin plus important d'investissement avec un impact sur le coût du kilowattheure. Ceci doit être nuancé par la conclusion suivante, seule une très forte baisse de la consommation d'énergie couplée à un recours massif aux renouvelables pourrait nuancer cette conclusion. Alors les critères que nous avons retenus et qui ont été débattus en commission pour évaluer les scénarios demandés par le ministre. C'était le coût de l'électricité, le coût complet de l'électricité, les besoins d'investissement, les émissions de CO2, l'impact sur l'emploi, sur la balance commerciale, la sécurité des approvisionnements, et bien sûr aussi les compétences technologiques, les enjeux industriels. Alors, je rappelle ici, mais je ne veux pas le développer, que nous sommes appuyés sur les résultats de la Cour des comptes, parce que nous avons auditionné la Cour des comptes. Donc, c'est important de savoir que pour le nucléaire, nous n'avons pas fait des calculs, je dirais, à nous. Nous avons pris les résultats de la Cour des comptes. Donc, je les ai mis, mais je ne vais pas les commenter. Avec tous ces chiffres, la Cour des comptes arrive à un chiffre qui, pour le nucléaire, est estimé à 49 euros par mégawattheure. Alors, ce coût ne tient pas compte des coûts de jouvence. Tout à l'heure, M. Lacoste parlait, je dirais, de la nécessité de faire des investissements pour prolonger la durée de vie des centrales existantes. Les coûts de jouvence ne sont pas négligeables, puisqu'au total, ils sont estimés à 55 milliards pour les réacteurs actuels, pour les 58 réacteurs, à 55 milliards d'euros, ce qui ferait passer à ce moment-là le coût du mégawattheure de 49 à 54 sur la période 2011-2025. Donc, nous, on s'est calé sur ce chiffre, mais on a pris également d'autres scénarios où le chiffre pouvait être plus bas. J'ai simplement présenté ça pour dire qu'il ne faut pas comparer ce coût de 49 au coût de l'Arenh, parce qu'on a parfois entendu dire, c'est bien la preuve que les coûts ont monté, puisque le coût qui sert aujourd'hui à la fixation du tarif réglementé de vente en électricité, c'est un coût qui est plus bas, c'est le fameux 42 euros par mégawattheure de l'Arenh. Mais l'Arenh, c'est une autre approche. L'Arenh, c'est un coût qui est défini comme le coût que supporte EDF aujourd'hui du fait qu'une partie de ses investissements a déjà été amortie. C'est-à-dire qu'évidemment, le coût, si on tient compte de l'amortissement, le coût est plus bas. Donc, je dirais, c'est deux choses différentes. Il peut y avoir un débat sur, je dirais, la comparaison entre les deux, mais on ne parle pas de la même chose lorsqu'on cite l'Arenh et lorsqu'on cite le chiffre de la Cour des comptes. Il n'y a pas incompatibilité. Alors, on est parti de ces chiffres-là qui montrent le coût de production de l'électricité, des énergies alternatives. Et on le trouve dans les rapports de la Cour des comptes et, je dirais, nous étions tout à fait en phase avec ces chiffres. Alors, je les ai mis pour bien montrer que, je dirais, il y a une variation très forte puisque le nucléaire et l'hydroélectricité ont un niveau relativement bas. Par contre, l'éolien, notamment offshore et surtout le photovoltaïque aujourd'hui, on le sait, sont fortement aidés, surtout pour le photovoltaïque. Et donc, les coûts sont nettement supérieurs. Donc la commande du ministre, c'était d'examiner en particulier quatre options. Une accélération du passage à génération 3, voire génération 4, lorsque génération 4 sera disponible, premier scénario. Une prolongation de la durée d'exploitation du parc existant, passé de 40 ans programmé jusqu'à 60, en sachant évidemment que c'est tous les 10 ans que l'ASN donne son autorisation. Troisième hypothèse ou troisième option, réduction progressive du poids du nucléaire. Ça veut dire qu'à 40 ans, un réacteur sur deux est remplacé par des EPR, mais qu'un réacteur sur deux n'est pas remplacé, ou plus exactement est remplacé soit par du thermique classique, gaz, éventuellement charbon, mais c'est plutôt du gaz, ou par des renouvelables. Et enfin, une sortie complète du nucléaire, pas immédiate évidemment, l'idée c'est à 40 ans, lorsqu'un réacteur atteint 40 ans, il est remplacé systématiquement par un mix qui est soit fossile, soit énergie nouvelle et renouvelable. Alors, ce qu'il faut avoir bien en tête quand même, c'est que le coût complet du kilowattheure sortie centrale ne représente que 40% du prix payé par le consommateur final, notamment domestique. 35%, ça correspond au réseau, les réseaux de distribution à peu près 25%, et le réseau de transport à peu près 10%. 25% est constitué de taxes ou de la CSPE, la fameuse contribution au service public de l'électricité, qui sert en particulier à subventionner les renouvelables dans l'état actuel des choses, mais qui finance aussi la péréquation spatiale des tarifs. La deuxième observation qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut prendre en compte le coût du backup pour les renouvelables. Le backup, c'est, je dirais, le fait que les renouvelables n'étant pas disponibles en permanence tout au long de l'année, eh bien, il faut en quelque sorte tenir compte du coût des centrales qui sont mises en réserve pour faire face à l'absence de vent ou à l'absence de soleil. Alors nous n'avions pas les moyens d'estimer ça, d'autant que c'est compliqué parce qu'il faudrait le faire presque centrale par centrale, ça dépend où la centrale est localisée. Évidemment. Donc, c'est assez complexe. Alors, il y a quand même des évaluations qui sont des évaluations disponibles de l'AIE qui montrent que ce coût peut varier suivant les cas, entre 5 et 25 euros par mégawattheure. Donc, ça renchérit, ce qui est logique, le prix du mégawattheure ou du kilowattheure pour le consommateur final. Donc, à l'horizon 2030, en monnaie 2010, voilà les chiffres qu'on a retenus. Donc, on fait l'hypothèse que la fourchette pour le nucléaire est assez vaste, puisque c'est relativement le prix actuel, 43 euros le mégawattheure, dans l'hypothèse basse, mais 75 si on prend ce qui est aujourd'hui être l'estimation de l'EPR. Donc on voit que c'est un coût nettement supérieur. On a fait des hypothèses sur le prix du charbon, sur le prix du gaz, sur le prix du pétrole, puisque le gaz est corrélé au pétrole. Alors évidemment, il y a un scénario qui est possible qu'on n'a pas vraiment examiné en détail, c'est le scénario où le gaz de schiste serait très important et où le prix du gaz s'effondrerait en Europe comme il s'est effondré aux États-Unis. Et on a fait l'hypothèse qu'il y aurait un effet d'apprentissage pour l'éolien, bien sûr, et même pour le photovoltaïque, un effet d'apprentissage relativement important. À partir de là, on voit les coûts complets de production, c'est-à-dire sortie centrale, dans les différents scénarios. Alors évidemment, ce qui saute aux yeux, vu les hypothèses qui sont faites, mais c'est un exercice, bien évidemment, qui suppose des hypothèses et des précautions. Je précise bien que l'objectif, c'est d'éclairer la décision, pas de dire ce qui va se passer. Donc, on voit que la prolongation de la durée de vie du parc actuel, la durée d'exploitation, plus exactement, du parc actuel, est aujourd'hui, même si on tient compte des coûts de jouvence, la solution la moins coûteuse en termes de coûts, avec les hypothèses sur le prix du CO2 par rapport à une solution qui consisterait à accélérer le passage à l'EPR d'ailleurs, ou à sortir du nucléaire. En termes de CO2, on constate le même message, si j'ose dire. Bien évidemment, l'avantage du nucléaire, c'est qu'il y a moins d'émissions de CO2 par rapport à une situation où on remplacerait les centrales nucléaires par des centrales thermiques, y compris des centrales à gaz. Donc ce tableau résume un petit peu les conséquences sur les coûts, les conséquences sur les émissions de CO2, les conséquences sur l'emploi. Alors ça, c'est un résultat intéressant. Ce qui est important, ce n'est pas le fait de savoir si le nucléaire crée plus d'emplois que les renouvelables, parce que, au fond, la question n'est pas centrale à ce niveau. On s'aperçoit que les renouvelables, elles aussi, peuvent créer des emplois, même si on ne peut pas comparer la structure des emplois des renouvelables avec la structure des emplois du nucléaire. Ce n'est pas le même type d'emploi. Par contre, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, ce sont les emplois, je dirais, tout à fait induits par le niveau du prix de l'électricité. Pour dire les choses autrement, les modèles macroéconomiques peuvent montrer que lorsque le prix du kilowattheure monte, il y a beaucoup d'industriels dont la compétitivité peut être mise en cause. Et donc ce sont ce type d'emplois qui peut être en quelque sorte, je dirais, impacté par une sortie du nucléaire avec augmentation du prix de l'électricité. Donc ça, c'est important, parce que le nucléaire, c'est, si on prend les emplois directs, les emplois indirects, je dirais de l'ordre de 400 000 emplois. Par contre, il y a des emplois qui sont directement liés au niveau du prix de l'électricité. Donc la France dispose d'un prix d'électricité relativement bas. Pour les industriels, c'est important. Et donc si on abandonne cette option, il y aura des conséquences. Alors les conclusions, c'est la prolongation de la durée de vie des réacteurs actuels, c'est, je dirais, dans l'état actuel des informations, la meilleure solution. Au fond, l'idée, c'est ce sont des réacteurs qui marchent, sous réserve que l'autorité de sûreté nucléaire donne son autorisation, et là on n'est pas compétent pour en parler, et bien sûr, sous réserve qu'on fasse des investissements de jouvence, eh bien, il serait dommage d'arrêter ces réacteurs parce qu'il y aurait une perte de valeur économique. On a d'ailleurs estimé, avec différents taux d'actualisation, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. L'avantage de cette solution, c'est qu'elle permet d'attendre l'émergence de technologies matures, c'est-à-dire qu'on y verra un peu plus clair aux alentours de 2030. Ça permettra soit d'accélérer le passage à de nouveaux réacteurs nucléaires, soit d'accélérer le passage vers d'autres technologies, notamment les technologies renouvelables. Évidemment, il y a des incertitudes technologiques importantes. On peut dire que jusqu'en 2030, on ne s'attend pas, il peut y avoir des surprises, on ne s'attend pas à des ruptures technologiques. On sait qu'au-delà de 2030, elles sont possibles, et notamment elles sont possibles dans le domaine du stockage de l'électricité. Il est évident que si après 2030, des technologies de stockage plutôt massif d'électricité apparaissaient à des coûts qui soient acceptables, ça changerait fortement la donne. Donc c'est un élément à prendre en compte. Et la conclusion, c'est aussi, mais ça c'était, je dirais, une conclusion qui a été examinée tout au long de nos débats, même si elle n'apparaît pas toujours de façon tout à fait explicite, mais ça, je peux vous dire, ça a été un élément important de toutes nos discussions, c'est priorité à l'efficacité énergétique. D'ailleurs, la France a pris des engagements dans ce domaine, en particulier dans le bâtiment et les transports, qui sont les deux gros secteurs consommateurs, sachant quand même que pour l'existant, pour le bâtiment, eh bien, les coûts sont relativement élevés. Et donc, c'est d'ailleurs un des problèmes, à mon avis, un des enjeux auxquels le gouvernement est confronté, c'est comment améliorer fortement l'efficacité dans le bâtiment, parce que ça coûte relativement cher dans un contexte où beaucoup de ménages sont en situation de précarité énergétique. Merci Madame la Présidente.
Merci beaucoup Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être juste faire quelques commentaires rapides en écho aux exposés précédents autour de deux idées principales. La première, c'est que bien sûr, le sujet principal ce matin, c'est le nucléaire en France et son avenir possible. Mais il me semble important de le resituer, comme vient de le faire Jacques Percebois, dans une perspective qui parle de l'ensemble des technologies, en particulier pour l'électricité. On sait que c'est un vecteur énergétique qui ouvre des choix, donc il faut précisément parler de ces choix, et surtout de le remettre dans une perspective internationale. La dimension internationale, qu'elle concerne les prix du gaz, du pétrole, du charbon, ou qu'elle concerne les technologies, elle a toujours été, mais elle l'est toujours au moins autant, sinon plus. Peut-être deux ou trois éléments pour illustrer le point. Vous savez qu'une bonne partie des panneaux photovoltaïques sont aujourd'hui fabriqués en Chine. Vous savez que sur la soixantaine de tranches nucléaires en construction dans le monde, 25 à peu près sont construites aujourd'hui en Chine. Plus des deux tiers ou des trois quarts sont construites en Asie. Et si je pense au prix des combustibles, charbon, gaz, pétrole, bien sûr, la demande des pays émergents est complètement décisive aujourd'hui pour les années qui viennent. Juste un petit exemple. La Chine, il y a deux ou trois ans, a décidé, pour des raisons de pollution locale, d'arrêter quelques-unes de ses mines de charbon les plus anciennes. Ce seul fait a augmenté les importations de la Chine, qui avant étaient juste légèrement exportatrices de 2 à 3% sur le marché mondial du charbon. Peu de choses, les prix du charbon sont passés, juste sur cette période, de 60 dollars la tonne à 120 dollars la tonne à l'échelle internationale. Donc vous voyez l'impact considérable, et donc ça veut dire évidemment que la France a des enjeux propres, qu'elle a des atouts au travers de ses entreprises, de ses compétences, mais qu'il faut absolument les replonger dans cette dimension internationale. Puis le second point, c'est évidemment le point clé qui est lié à une discussion approfondie sur les technologies. Au fond, on pourrait dire sur les technologies, un peu ce que disait André-Claude Lacoste du nucléaire, il faut garder en permanence le doute et faire droit à la complexité dans ces discussions, et en particulier partager peut-être davantage sur les faits, où en sommes-nous aujourd'hui avant de parler des 50 années qui viennent. Et donc c'est quelques éléments plutôt fondés sur ce que nous voyons aujourd'hui que je vais essayer de partager avec vous sur ces deux registres. Donc premier registre, dimension internationale, et peut-être ça vaut la peine de revenir au fond sur les trois enjeux, développement économique et compétitivité, électricité et énergie abordable, sécurité d'approvisionnement et climat. Donc sur le premier, on sait que les besoins à l'échelle mondiale sont considérables. Dans la plupart des prévisions à 2050, on envisage des scénarios où le PIB mondial est multiplié par 4 et la consommation d'électricité, quelque part, multipliée entre 2 et 3, en espérant que ce sera plutôt 2 que 3. Vous voyez, une fois que je dis ça, ça veut dire que dans notre jargon d'économiste, on suppose qu'on arrive à une élasticité de l'électricité au PIB qui passe à 0,5. 1% de croissance économique signifie 0,5% de croissance de l'électricité à l'échelle mondiale. Alors, quelques données sur là où nous en sommes. Dans l'histoire, pendant les Trente Glorieuses, pour nos pays, aujourd'hui, si vous prenez des pays comme la Turquie, j'y pense parce que j'étais hier discuté avec des collègues turcs, l'élasticité de l'électricité au PIB se situe quelque part entre 1,2, 1,3, 1,5. Elle est aujourd'hui de 1,5 en Turquie, 4% de croissance économique par an, 7% de croissance de leur électricité, pour prendre cet exemple. Si on regarde nos pays, Allemagne, France, sur la période, alors on va essayer de s'abstraire de la crise, 98-2008, vous avez une élasticité qui est passée à peu près autour de 0,8, avec derrière des politiques d'économie d'énergie déjà relativement significatives, même si, comme le disait Jacques Percebois, il y a encore beaucoup à faire. Donc vous voyez, une fois qu'on a dit cela, si on regarde donc 0,8, ça veut dire que la demande d'électricité a continué à augmenter dans le temps où la demande en énergie primaire qu'évoquait Jacques Percebois, elle, est restée stable en Allemagne et en France, pour faire le lien entre énergie primaire ou énergie et électricité. Et donc, dans la plupart de ces scénarios, comme je l'ai évoqué, donc vous voyez qu'il y a un enjeu majeur à arriver à faire passer à l'échelle mondiale, et d'abord dans les pays de l'OCDE, arriver à passer des élasticités plutôt de 0,4-0,5. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate au travers d'un certain nombre d'études, dont il faudrait passer plus de temps, parce que c'est un sujet évidemment clé sur la maîtrise de la demande, ce qu'on constate, c'est que sur les dernières années, dans un certain nombre de cas, en particulier concernant le résidentiel, par rapport aux études papier, grosso modo, les technologies dont on disait qu'elles économisaient économisent deux fois moins, et elles coûtent plutôt deux fois plus cher. Ça ne signifie pas du tout qu'on ne puisse pas y arriver. Ça signifie plutôt, de mon point de vue, qu'on n'a pas regardé de manière encore suffisamment précise le mérite order des technologies du côté de la demande, pour vraiment pouvoir comparer pour l'industrie, les pompes à chaleur, l'induction, la recompression mécanique de la vapeur, pour les logements, essayer de bien comprendre ce qui se passe quand on veut isoler davantage un logement entre l'isolation des combles, l'isolation par l'extérieur, etc., en tenant compte des différentes catégories de construction, etc., etc. Et au fond, derrière ce mérite order, ce qu'il faut probablement envisager, c'est des mix de politiques publiques qui tiennent compte de toutes les leçons que nous avons apprises depuis 20 ans, avec probablement, là aussi, faire droit davantage à la complexité. En tout cas, c'est mon point de vue. Si on prend l'exemple de l'isolation dans les logements, on voit qu'il faut à la fois, si on veut arriver à des résultats, avoir une filière d'artisans bien formés, donc un problème de formation du tissu industriel. Il faut avoir, on va dire, control and command regulation, des labels, des normes sur les appareils électriques, sur l'isolation. Et en même temps, on sait que si on n'envoie pas des signaux de prix appropriés, on a ce qu'on appelle l'effet rebond, les gens finalement gardent leur vieux frigo dans la cave et consomment toujours deux fois plus. Donc on a un ensemble de politiques publiques, si on veut que les choix décentralisés se fassent correctement, qu'il faut probablement penser davantage pour être plus efficace et arriver au rendez-vous. Si j'en viens à la sécurité d'approvisionnement, donc on a beaucoup parlé, c'est probablement une des révolutions majeures dans le secteur de l'énergie, des gaz non conventionnels et maintenant du pétrole non conventionnel. En même temps, on voit bien, quand on voyage, là encore, que les considérations de sécurité d'approvisionnement sont toujours aussi importantes, en particulier concernant le pétrole et le gaz. Peut-être peut-on dire qu'avec ces gaz non conventionnels et ce pétrole conventionnel et non conventionnel, on a devant nous une certaine abondance physique de ces ressources. En revanche, probablement pas si bon marché, à part les États-Unis, et donc cher, avec des prix volatiles, et donc au fond une rareté pas tant physique, mais sûrement une rareté géopolitique, sûrement une rareté environnementale, et certainement une rareté économique. Quelques chiffres là encore, aujourd'hui les prix du gaz sont autour de 4-5, ou vont arriver, sont à 3 dollars par million de BTU, ou vont arriver à 4-5 dollars par million de BTU aux États-Unis, sont aujourd'hui en Europe sur les marchés à 10 dollars et en Asie à 15 dollars par million de BTU. Pour vous donner une image, 15 dollars par million de BTU, ça correspond à peu près en équivalence énergétique à 90 dollars le baril. Donc ça veut dire qu'on est très loin de l'équivalence énergétique. Aux États-Unis, on sait qu'on a des champs dont les géologies, on pourrait le dire autrement, quand on regarde en Pologne, quand on essaye de creuser, on s'aperçoit que, on va dire pour le faire bref, que le gaz non conventionnel est plutôt deux fois plus profond, avec des couches deux fois plus minces, peut-être deux fois plus chères. Aux États-Unis, ils ont un certain nombre de champs qui géologiquement sont favorables, et surtout, ils ont actuellement des champs dans lesquels on peut extraire à la fois du pétrole et du gaz. Le gaz est finalement un sous-produit du pétrole, le pétrole se vendant très cher, ce qui explique ses prix bas aux États-Unis. Tout ça pour dire qu'au fond, dans les prévisions de l'AIE, l'idée, c'est bien qu'en Europe, on va arriver vers plutôt des ordres de grandeur de 12-13 dollars par million de BTU à l'horizon 2025-2030, et rester probablement à 14-13 dollars par million de BTU en Asie, les prix remontant progressivement aux États-Unis. Alors, m'excuse d'avoir été un petit peu long sur le gaz, mais c'est un point de référence important dans la discussion. Le deuxième point sur la sécurité d'approvisionnement, c'est juste pour revenir brièvement sur l'uranium, en comparaison avec le gaz, pour dire qu'évidemment, sécurité d'approvisionnement renvoie à la diversification des sources, renvoie aussi à l'ampleur des réserves physiques. Je voudrais rajouter un dernier point qui est quand même très important, me semble-t-il, c'est la part dans le coût total d'une centrale au gaz ou d'une centrale nucléaire, la part de la partie combustible. Pour une centrale au gaz, grosso modo, et en même temps on peut donner quelques ordres de grandeur là encore de coût pour revenir sur les transparents de Jacques Percebois, si vous avez 10 dollars par million de BTU, le coût complet d'une centrale au gaz avec un taux d'utilisation de 8% réel pré-tax, etc., c'est 70 euros par mégawattheure. Vous, dans votre facture, vous payez à peu près donc 130 euros par mégawattheure, taxes comprises. Donc voilà quelques ordres de grandeur. 70 euros pour un cycle combiné à gaz. Si je prends un prix du gaz à 12-13 dollars par million de BTU, un CO2 à peu près à 30-40 euros par tonne, vous savez qu'il est aujourd'hui uniquement à 8, mais que c'est un point de passage obligé si vraiment on veut être sérieux sur le carbone aux horizons 2020-2025. C'est ce que les Anglais ont pris dans la loi comme plancher à l'horizon 2020. On arrive à un coût complet des cycles combinés à gaz de 100 euros par mégawattheure. Donc ça vous donne une idée. Et sur ces 100 euros, le combustible, c'est à peu près les deux tiers ou les trois quarts du coût. Donc vous voyez l'importance sur la balance courante et la balance commerciale des pays d'une augmentation significative des importations de gaz dans ce contexte-là en Europe et en Asie. Pour le nucléaire, la partie combustible, c'est 5% du coût. Donc les ordres de grandeur sur le nucléaire, Jacques Percebois a évoqué donc les chiffres de la Cour des comptes qui tournent autour, disons, de 50 euros par mégawattheure, coût complet des centrales, des 58 tranches qui ont été construites en France, et probablement ordre de grandeur du coût pour les faire fonctionner encore pendant 20 ou 30 ans, sous réserve de la discussion qu'on a eue avec André Coldacoste, évidemment, sur la sûreté. Et puis évidemment, le challenge, c'est que va-t-il se passer pour la génération 3 ? Pour le moment, les chiffres sur les centrales qui sont en construction en Chine, en Russie, chez nous, entre l'AP1000, l'AES 2006, l'EPR, autant qu'on puisse le savoir, sont dans cette fourchette de 70-90 euros par mégawattheure. L'idée étant évidemment, avec l'organisation industrielle qui va bien, de pouvoir descendre en dessous, et c'est le travail pour les années qui viennent. Donc voilà en même temps des ordres de grandeur. Vous voyez que quand je dis que pour le nucléaire, le coût du combustible, c'est 5% du coût complet, si j'ajoute qu'une tonne d'uranium naturel, c'est à peu près l'équivalent énergétique de 10 000 tonnes de pétrole, vous voyez qu'on peut beaucoup plus facilement et à faible coût à constituer des stocks stratégiques d'uranium pour plusieurs années, alors que dans la plupart des pays de l'OCDE, arriver à constituer 3 mois de stocks stratégiques de pétrole, évidemment plus exigeant à la fois en termes de coût et en termes de localisation de stockage. Donc le dernier point, c'est le climat. Évidemment, l'électricité, on le sait tous, est au cœur de ces débats. Aujourd'hui, 40% des émissions de CO2 liées à l'énergie et à l'action de l'homme sont liées à l'électricité. Pourquoi ? Parce que le mix électrique mondial est constitué à grosso modo 40% de charbon, 25% de gaz et un petit peu de pétrole, donc 2/3 fossiles, 13% de nucléaire, 15% d'hydraulique et 2-3% qui montent en énergie renouvelable nouvelle. Donc évidemment, c'est un point clé. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on voit qu'on peut faire la différence aujourd'hui. Si vous avez Suède-France d'un côté, avec grosso modo 40% de nucléaire et 45% d'hydraulique en Suède, 75% de nucléaire et 15% d'hydraulique en France, vous avez à peu près 6 tonnes de CO2 par habitant. Si vous prenez l'Allemagne et le Danemark, qui, et c'est une bonne chose, développent des éoliennes, mais ont tout de même encore à peu près 50% de charbon ou 40% de charbon aux limites, eux sont plutôt à 10 tonnes de CO2 par habitant. Et j'ajoute, comme on le disait tout à l'heure, 130 euros par mégawattheure pour le prix en France, 240 euros par mégawattheure en Allemagne, 290 euros par mégawattheure pour le client final domestique au Danemark. Alors évidemment, il y a des taxes, donc là encore, il faut faire droit à la complexité, ce que je ne fais pas. Mais tout de même, ça veut dire qu'on peut y arriver, au fond, aujourd'hui, et sans forcément avoir des coûts très importants. Mais bien sûr, le choix des technologies est au cœur de la capacité à réconcilier, au fond, climat et économie. Et donc, si j'en viens aux technologies, il me semble très important, de ce point de vue-là, même si c'est un peu caricatural à ce stade, de distinguer dans l'électricité, au fond, ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire les technologies qui sont aujourd'hui matures, dans cette fourchette, disons, de 70 à 100 euros par mégawattheure pour les nouvelles centrales. Donc on retrouve les 6 combinés à gaz, les nouvelles centrales hydrauliques, les nouvelles centrales nucléaires, les éoliennes terrestres, dont le seul problème aujourd'hui, c'est effectivement l'intermittence lorsqu'on en a beaucoup dans un système électrique, mais qui sinon sont vraiment proches de la compétitivité, surtout quand il y a beaucoup de vent. 2000 heures de vent dans nos régions, on arrive à avoir des éoliennes qui tournent autour de 80-85 euros par mégawattheure. Évidemment, vous en construisez dans le cœur du Midwest, dans la petite boucle là, du Mexique, où vous avez 3500 à 4000 heures de vent, c'est vraiment compétitif. Et donc le seul problème, c'est de l'insérer dans les réseaux électriques, mais il y a une place significative pour les éoliennes onshore. Si vous prenez la deuxième catégorie des technologies, c'est celles qui sont vraiment prometteuses, mais encore aujourd'hui trop chères. Et donc l'enjeu, c'est en fait d'arriver à les faire rentrer dans les 15-20 ans qui viennent, dans les purs. C'est là qu'on va retrouver la capture-stockage du CO2 pour le charbon et le gaz, qui aujourd'hui probablement donne des coûts complets 2 fois trop élevés. On a vu que les éoliennes offshore tourne autour de 150-200 euros par mégawattheure, selon la profondeur de la mer aujourd'hui. Le photovoltaïque, avec 1000 heures de soleil entre Paris et Francfort, on est quelque part entre, disons, 200 et 400 euros par mégawattheure, selon qu'on a des fermes ou qu'on est sur les toits. Et alors j'ajoute tout de suite, vous voyez, donc en fonction de ces quelques remarques, le point clé, ça va bien être de développer ces technologies au bon moment, au bon endroit et avec le bon mix. Donc au bon moment, ça veut dire qu'il faut faire les gestes entre la R&D, le passage au démonstrateur et le déploiement massif qui soient les plus appropriés. Il faut ni être en avance, ni être en retard. Donc c'est évidemment l'enjeu clé. Mais aussi au bon endroit. Donc si je prends l'exemple du photovoltaïque, prenons l'exemple de 250 euros par mégawattheure pour une ferme photovoltaïque aujourd'hui, avec 1000 heures de soleil, quel est le coût évité chez nous ? Évidemment, en France, on le sait bien, la pointe, elle est le soir entre 18h et 20h, la semaine froide de l'hiver froid. Il y a peu de soleil. Et donc, le photovoltaïque va contribuer peu, à la fois à éviter de la production de pointe et à éviter le développement de réseaux de distribution. Et donc, le coût évité va tourner finalement plutôt autour probablement de 40-50 euros par mégawattheure, pas plus. Donc, il faut comparer 40-50 à 250, c'est 4-5 fois trop cher. Vous allez en Californie, parce que nous on construit des panneaux photovoltaïques dans un certain nombre d'endroits dans le monde, dont la Californie. Vous allez en Californie, vous avez 2000 heures de soleil par an. Donc mécaniquement, pratiquement le coût de 250 passe à 125. Et la pointe en Californie, c'est l'air conditionné la journée, l'été. Et donc là, vous économisez, le service rendu est bien plus important. Donc plutôt peut-être autour de 100 euros par mégawattheure. Vous voyez que vous êtes peut-être 25% trop cher, vous êtes quasiment à la compétitivité. Et donc je vais conclure sur les technologies en disant probablement que c'est ce type de discussion sur lequel il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'il me semble que ce sont les discussions importantes bien partagées sur les faits aujourd'hui. Et évidemment, le dernier point, c'est les conditions de réussite. Donc je ne vais pas développer, mais à chacune de ces technologies, il y a des conditions de réussite. On a terminé un barrage de 1000 MW à Nampton au Laos, où on a essayé de tenir compte le mieux qu'on pouvait, encore il faut être modeste, biodiversité, déplacement des populations avec la Banque mondiale, avec des ONG, etc. Il y a des conditions institutionnelles de réussite, à la fois dans la maîtrise des coûts, de la sécurité de ces ouvrages et de leur insertion dans les pays. C'est évidemment la même chose pour le nucléaire. Et évidemment, le rôle de l'exploitant, comme le rappelait dans l'une des règles clés de sûreté, André Koulkos, la responsabilité de l'exploitant est la première qui est engagée. Et je voudrais juste dire, de ce point de vue-là, peut-être deux points pour terminer. Le premier, c'est la dimension clé, quelque part, d'une ingénierie de l'exploitant au service de l'exploitant. Si vous pensez Fukushima, comme le rappelait André-Claude Lacoste, les points clés ont été problèmes liés au design face à un tsunami, problèmes liés à la défense en profondeur et problèmes liés au management de la crise. Dans ces trois cas, on pourrait le détailler, c'est bien la capacité à avoir ces compétences d'ingénierie d'exploitation en lien avec l'exploitant qui peuvent faire la différence, cette connaissance intime du design qui conduit à voir comment on peut le faire évoluer pour rendre la vie de l'exploitant plus agréable, mais surtout pour la sûreté des installations. C'est donc un point clé. C'est ce que les Américains aussi ont mis en place au travers de l'INPO, dans une coopération entre électriciens. Et évidemment, la coopération internationale, je reviens à la fin sur mon premier point, vous voyez, l'essentiel des nouvelles centrales nucléaires seront construites dans d'autres pays comme l'Asie, etc. Évidemment, la coopération internationale est clé. Et là encore, juste un exemple, dans les peer reviews que WANO organise, précisément, on ne mettait pas l'accent sur la dimension design et amélioration du référentiel de sûreté en amont et sur la capacité à contrôler la gestion de la crise. C'est évidemment deux éléments clés que nous sommes en train d'inscrire dans le cœur des revues que doivent accomplir nos collègues et nous-mêmes, les uns chez les autres. Merci beaucoup.
C'était Jean-Paul Bout, directeur de la stratégie du groupe EDF, au cours de ce colloque sur l'avenir du nucléaire dans la politique énergétique française, un colloque organisé à l'Académie des sciences morales et politiques en mars 2012. Vous avez pu entendre également le président de la commission Énergie 2050, Jacques Percebois, et puis le président du Centre Énergie de l'IFRI, Institut français des relations internationales, Jacques Lesourne. Restez en notre compagnie et téléchargez dès maintenant sur Canal Académie les deux autres volets de ce colloque. Retrouvez Benjamin Dessus, auteur de « En finir avec le nucléaire » aux éditions du Seuil, paru en 2011. Et puis retrouvez également, en dernière partie, les observations de Michel Pébrot et de Jean Béchler, tous deux membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Ils concluent ce colloque. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.